On continue notre petite étude dans Galates, parce qu'on étudie tranquillement le livre de Galates, puis on est rendu au chapitre 5, au verset 22. Tout le long de l'Épître aux Galates, on a vu que l'apôtre Paul, il parlait aux gens de cette ville-là, mais en réalité, c'est plus qu'une ville. Il y avait plusieurs églises dans... c'est un territoire. Puis les gens, il y avait eu des conflits dans l'église, puis il y en a que des Juifs, qui imposait aux païens de dire il faut que vous fassiez circoncis pour pouvoir être sauvés. Même s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, il essayait de les ramener à la loi. Fait que pendant 5 chapitres, l'apôtre Paul il a débattu avec les gens de ce territoire-là, les chrétiens, pour leur dire que t'as pas besoin de te faire circoncis. Puis parce qu'il leur a dit si vous faites circoncis, vous allez être obligé de pratiquer toute la loi tout entière. Mais après avoir fini pendant 5 chapitres de débattre là-dessus, on a vu la semaine passée que l'apôtre Paul il a dit aux chrétiens, la vraie manière de vivre quand t'es chrétien, c'est pas de retourner à la loi, c'est de plus marcher selon la chair. Fait qu'à la dernière étude, j'ai expliqué c'est à quoi la marche par la chair. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, il va plus loin. Parce que pas marcher selon la chair, c'est une chose, mais il veut qu'on marche par l'esprit. Là, il y a quelque chose d'autre en marchant par l'esprit. Fait qu'on est rendu là, on a vu que l'enseignement de Paul sur certains éléments de la conduite selon la chair, là, on va voir maintenant le fruit qui découle de la vie de l'esprit. Parce que quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, t'es dans la nouvelle alliance, le Seigneur te pardonne tes péchés, mais c'est pas tout. Tu reçois le Saint-Esprit. Il est rentré dans ta vie. Puis une fois que le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, il y a une nouvelle vie qui va commencer. L'ancien Daniel Poulain, là, il est mort. Puis là, c'est un nouveau Daniel Poulain qui commence avec le Saint-Esprit. Puis là, notre vie change. Puis là, on a un combat. On l'a vu là-dedans que dans l'explication qu'on a comme deux chemins devant nous. Notre ancien chemin, de marcher tout croche dans le péché, puis dans toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu, ou le nouveau chemin qui est de marcher de plus en plus comme Jésus le veut. Être en contact avec Jésus, c'est être en contact avec le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu le Père, le Saint-Esprit, puis Jésus, les trois forment un. Fait que t'es reçu, là tu veux marcher en contact avec, puis là tu lui demandes de venir agir dans ta vie pour que ça soit évident que tu marches par l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie de quelqu'un qui est dirigé par lui, là, par le Saint-Esprit, on voit dans Galates 5, 22, le premier verset qu'on va étudier ce soir, ça dit, mais le fruit de l'Esprit. Là, il parlait des œuvres de la chair, mais là, il passe à d'autres choses, mais il dit, mais le fruit de l'Esprit. Le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est pas le fruit de Daniel qui fait des efforts. C'est le fruit que le Saint-Esprit va produire en nous parce qu'il est en nous. C'est vrai qu'on coopère avec lui pour changer. Là. C'est parce que s'il nous dit, il nous explique des affaires, il nous fait comprendre des affaires, il nous délivre de certaines affaires. Puis là, il nous dit, fais ça. Parce que c'est écrit dans la Bible, un chrétien devrait être comme ça. Il nous dit, fais ça. Fait qu'on obéit, on marche avec le Seigneur. Fait que le Saint-Esprit va produire en nous que ça va être évident qu'on est une nouvelle créature. Parce qu'ils vont être des fruits. Si une personne n'a pas de fruits de l'Esprit dans sa vie, ce qu'on va voir ce soir, les fruits de l'Esprit, s'ils ne sont pas là, mais il faut revenir à la base. Premièrement, demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur d'entrer dans ta vie. Parce que c'est là que ça commence, la vie chrétienne. C'est au moment où tu sens que l'Esprit de Dieu est en toi, puis qu'il y a des changements qui commencent. C'est là que ça devient évident que tu es chrétien, parce que tu as des fruits de l'Esprit dans ta vie. Ce qu'on veut étudier ce soir, c'est les différents fruits de l'esprit. On fait juste un petit survol. On fait comme on a fait la dernière étude sur les œuvres de la chair. Je vais juste lire chaque mot, puis je vais donner la petite définition du dictionnaire biblique sur qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là. On va voir quelques fruits, les fruits de l'esprit qui sont écrits là. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, le mot qu'il y a là, c'est agapé. Puis le mot agapé, c'est le mot qui est utilisé aussi pour désigner l'amour, bien entendu, mais les réunions fraternelles. Quand on est ensemble, puis qu'on mange ensemble, qu'on est à l'église ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on prie ensemble, ça s'appelle un agapé aussi. C'est à des réunions fraternelles. Mais l'idée, c'est que la réunion qu'on a ensemble, quand on est content d'être ensemble, c'est de l'amour. Puis ça, ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on s'aime les uns les autres. Il dit même, Jésus a dit, d'aimer son prochain, même qui n'est pas chrétien, là, d'aimer son prochain comme soi-même. Puis il a même été plus loin, il a dit, aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire qu'un chrétien, un de ses fruits dans sa vie va être qu'il veut aimer tout le monde. Il veut pas. Puis quand tu as de l'amour pour ton prochain, c'est bien plus facile à vivre. T'aimes le monde, t'aimes tes frères et sœurs aussi, en particulier, parce que ça, il n'y a pas de place dans la vie chrétienne de garder des chicanes entre frères et sœurs. C'est pas biblique, puis même c'est pire que cela, c'est très mal vu dans la vie chrétienne par Dieu. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, puis s'il y a quelqu'un qui a fait de quoi à quelqu'un d'autre, faut se pardonner mutuellement. Faut jamais garder de rancune contre personne. L'amour va faire ça va nous souder ensemble. Puis ça, c'est un des premiers fruits de l'esprit. Fait que si t'es devenu chrétien, puis subitement tu m'as aimé les chrétiens, mais c'est normal. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a ça, cet amour-là, en nous. Puis ça fait partie de un de ses fruits. L'amour, ce mot-là, amour, c'est amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Fête d'amitié, c'est à tout le même sens pour ce mot-là, amour. Fête d'amitié, c'est ça qu'on je parlais tantôt, des réunions entre chrétiens. T'aimes tout le monde, t'es content, t'es heureux d'être là, t'es content de voir tout le monde. C'est des manifestations de l'amour de Dieu. C'est sûr que ça va plus loin que ça, parce qu'une fois que tu vis dans l'amour de ton prochain, tu vas avoir plein de points dans ton caractère qui vont changer. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, mais je veux pas l'éplucher ce soir, mais un jour on épluchera ça. Ça parle vraiment de l'amour, mais dans tous les comportements différents qui est supposé de découler de cet amour-là. L'amour ne cherche point son intérêt. Ça n'est un exemple. L'amour pardonne tout, accroît tout, supporte tout, mais tout ça, c'est des points qui sont comme, une fois que tu as l'amour, puis que tu cherches à avoir l'amour de plus en plus, parce que tu veux que le Saint-Esprit te remplisse de son amour, parce que Dieu est amour, tu vas être plus plein de Dieu, mais tu vas être plein plus d'amour aussi, tu vas aimer les autres, puis tu vas avoir un bon comportement à rassembler, à vouloir être avec les autres. C'est ça l'amour, c'est un des fruits de l'Esprit. Le deuxième qu'on regarde bien rapidement encore, la joie. Essayez de penser le petit peu de joie qu'on pouvait avoir avant d'être chrétien. Nos joies étaient très éphémères. Tu t'arrêtes à une nouvelle bébelle, là, t'es content d'avoir ta bébelle, mais après ça, quand tu l'as eu 10 minutes dans tes mains, t'es plus content. Ça, y a rien. Tout est passager. Mais quand t'es chrétien, y a quelque chose de spécial qui se passe. Le Saint-Esprit, il veut produire en toi un autre fruit. Qui s'appelle la joie. La joie, c'est, dans le dictionnaire biblique, ça dit joie, allégresse, réjouissance, puis la joie reçue aussi des autres. Tout ça, ça découle de ce mot-là qui est joie. Puis c'est toutes les ce qui est des causes qui causent des joies, ou que ce soit des occasions de subir des joies. Tout ça, la joie est produite quand tu es chrétien, par un des fruits que l'Esprit veut mettre en nous. Quand on est chrétien, en tout cas pour moi, en tout cas, quand je suis à l'église puis je vois tous mes frères et sœurs, j'ai une joie, je suis content, je suis heureux. Je suis chez nous, je suis content. Oui, il y a des affaires qui peuvent nous affecter, là. Je dis pas qu'on n'a pas rien qui essaye de nous faire perdre notre joie, mais il y a une force dans cela, d'être toujours dans la joie. Malgré que ça va mal, Puis ça peut être vécu par un chrétien qui marche rempli du Saint-Esprit. Si on veut vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, mais tu vas avoir ce fruit-là aussi, puis tu vas pouvoir être heureux même quand ça va mal. Puis ça, Dieu veut qu'on développe ça. Il y a un verset qui dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». C'est une force pour un chrétien d'être dans la joie. Ça produit comme une satisfaction, peu importe dans la condition que tu vis. Puis ça, si on se sent triste, si on se sent abattu, si on sent que ça va mal, il n'y a rien de mieux que demander au Seigneur de nous remplir de sa joie. Si tu as un cœur rempli de joie, rempli d'amour, puis de des autres points qu'il va y avoir, tu vas te sentir béni au bout. Parce que c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. C'est ça qu'il faut croire là-dedans ou comprendre. C'est pas nous qui se forcent. Oh, je vais me forcer, pour avoir de la joie. C'est pas un effort personnel. C'est tu vas dire, je veux ta joie, Seigneur. Remplis-moi de ta joie. Puis là, le Saint-Esprit va te faire vivre la joie du Seigneur. Puis quand tu es dans la joie du Seigneur, t'es heureux. Puis quand t'es heureux, ça va se refléter sur les autres. Ça, les autres aussi vont être contents de te voir, puis de ressentir, de voir ton sourire, puis de voir ta bonne humeur. Puis c'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Un autre point, parce que je les pose rapidement, que le Saint-Esprit veut faire en nous, c'est nous faire vivre sa paix. C'est la même chose tant que tantôt. Moi, je me rappelle, avant d'être chrétien, j'étais pas en paix. J'étais tout le temps tourmenté, achalé, puis souvent de mauvaise humeur, souvent colérique, souvent... toutes sortes de réactions charnelles, des réactions que mon corps faisait parce que lui est pas satisfait, tu réagis. Mais quand tu deviens chrétien, il y a une chose que Jésus fait, c'est qu'il nous laisse sa paix. Il l'a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais tu la reçois dans le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, que le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, t'as comme une assurance, une confiance que t'es sauvé. T'es en paix avec Dieu. Puis ça t'amène à vivre en paix avec ton prochain. Tu veux pas faire exprès pour chercher le trouble. On est tellement bien quand on est rempli de la paix du Seigneur. Tu veux pas en perdre cette paix-là. Cette paix, fait que ça vient en cause du Saint-Esprit. Que c'est le fruit, un des fruits de l'Esprit. Fait que l'Esprit veut produire ça en nous pour qu'on se sente en paix. Quand tu te sens en paix, là, t'as une assurance devant Dieu. Le mot paix, là, il se prend dans plusieurs domaines, là, comme dans un pays. C'est un état de tranquillité nationale. Quand le pays est en paix, ça veut dire que tout est tranquille, il n'y a pas de guerre, tout le monde sont en paix les uns avec les autres. Mais la paix au niveau des sensations, c'est l'exemption de la rage, de fureur, puis tout ça. Dieu veut nous amener, il veut nous donner sa paix qui va nous amener à être en paix avec notre prochain. Il dit autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais c'est possible de le devenir si tu es rempli du Saint-Esprit, si le fruit de l'Esprit le fait. Sinon, si on commence à regarder ce qu'il a fait, ce qu'il nous a fait, puis à chialer, puis à critiquer, mais on réagit charnellement. Mais là, on vivra pas la paix avec cette personne-là. Faut pardonner. Passe par-dessus les affaires parce qu'on aime les gens, on va lui pardonner, puis là, on va vivre une paix qu'on vivait pas avant, puis ça va être produit par le Saint-Esprit. La paix, c'est aussi au niveau de la sécurité, de la sûreté, de se sentir dans la félicité. T'es heureux, t'es en paix, tu te sens béni. Pis ça, il y a plusieurs points, mais la paix vient du Seigneur, mais est produite par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs éléments, mais là, je veux pas tous les mentionner ce soir. Dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 7, ça nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ça se comprend pas ce qu'on reçoit comme paix. C'est pas quelque chose qui est de l'intelligence, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Cette paix-là, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Fait que quand tu te sens en paix devant Dieu, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, ça te donne de l'assurance, ça te rassure au point que tu te sens sauvé, puis tu es dans le bon chemin, tu te sens béni, puis en plus, ça va garder tes pensées en Jésus. Le contraire de ça, c'est quand tu te sens plus en communion avec le Seigneur, tu sens plus sa paix, parce qu'il y a du péché, là. Il faut comprendre que le péché, c'est ça détruit notre état d'âme intérieur. Ça mène séparation entre Dieu et nous. Puis il faut continuellement demander pardon pour nos péchés. Puis il faut rester dans sa paix. Puis si tu es dans sa paix, tu vas garder tes pensées en Jésus. Puis c'est ça que ce verset-là nous dit. Un autre point que ça va nous amener quand tu es rempli du Saint-Esprit, je dis pas qu'on les reçoit toutes d'un coup sec, là. Il y en a que c'est un cheminement pour y arriver. Quand on dit c'est le fruit, mais quand on parle de fruit, là, tu prends un plant de tomate, là, tu plantes ta graine de tomate, elle sort tranquillement, les feuilles vont sortir, les branches vont pousser, les fleurs vont sortir, puis après ça, il va y avoir des fruits. C'est pas instantané, là. Des fois, oui, c'est instantané, mais des fois, il y en a, quand, tout dépendant de notre caractère de base, là, on peut faire beaucoup d'interférences. Parce que l'humain est encore là, puis tant qu'on n'est pas encore, nos œuvres humaines, charnelles, sont pas encore toutes mortes, ça réagit encore, puis ça nous fait perdre notre paix, ça nous fait perdre notre joie, on vit plus dans l'amour avec notre prochain, mais c'est ça qu'il faut travailler avec le Seigneur pour laisser le Saint-Esprit venir nous déposer ces choses-là en nous. Mais là, le point qu'on veut regarder ensemble, là, c'est la patience. Un autre fruit que le Saint-Esprit veut mettre en nous, d'être patient. Le mot patient dans ce verset-là, être patient, ça veut dire aussi être endurant. Puis avoir de la constance. Vu que tu es patient et que tu es endurant, tu vas continuer. Ça te donne de la persévérance, une immuabilité. Immuabilité, ça te donne de la persévérance. Quand tu es patient, tu vas avoir de la patience dans l'épreuve, ça te donne de la persévérance. Fait que si on veut ce caractère-là d'être capable de continuer malgré que ça va mal, puis d'avoir tout cette attitude-là, de ne pas lâcher, mais c'est donné par le Saint-Esprit. C'est dans le fruit de l'Esprit. Fait que si vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit, puis vous demandez au Seigneur, « Seigneur, viens me mettre en moi de la patience », le Seigneur va le faire. Puis vous allez être capable de passer à travers des affaires que vous n'étiez pas capable de passer à travers avant. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui va produire ça. C'est pas nous. Nous, je le sais, moi, je n'ai pas de patience. Mais si j'arrive à en avoir par bout, c'est parce que je suis rempli de l'Esprit, parce que humainement parlant, je suis pas patient. Puis quand je suis pas rempli du Saint-Esprit, mais il va en avoir des réactions non patientes. Dans Jacques, chapitre 1, verset 3 et 4, il dit que dans l'épreuve, quand tu vis des épreuves, des fois on est tanné d'en vivre des épreuves, puis on trouve ça fatigant, puis on a hâte d'en s'en sortir. Mais il dit, quand tu es dans l'épreuve, là, mais l'épreuve de votre foi produit de la patience. Il y a comme un processus, Dieu se sert des épreuves pour nous fortifier dans notre patience. Fait que pour que le fruit soit là, faut que tu vives des épreuves. Tes épreuves, tu vas passer à travers avec la force du Seigneur. Si t'es rempli du Saint-Esprit, tu vas devenir patient, puis tu vas passer à travers ton épreuve. Parce qu'on vit comme épreuve, peu importe les épreuves, là, faut se dire que Dieu n'a pas perdu le contrôle dans ses mains, sauf qu'il sert des épreuves pour nous rendre patients, persévérants, puis qu'on soit des gens qui avancent, puis qui se laissent qui ont de la constance, de l'endurance. Ça nous fortifie si en autant qu'on marche rempli du Saint-Esprit. Parce que si t'es dans ta chair, puis tu vis des épreuves, ben là, c'est des critiques, les fiolages, les murmures, les plaintes, la revanche, ça, tu sais, tout ce qui est négatif va sortir de notre vie. Mais si on marche par l'Esprit, Dieu va faire un travail pour devenir de plus en plus comme Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Jésus, s'il y aurait eu bien quelqu'un qui aurait pu se révolter, là, puis de pas vouloir aller à la croix. Tous ses disciples l'avaient abandonné, tout le monde était contre lui, puis là, les souffrances s'en venaient, il dit à Pierre, il dit, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui me donnera 12 légions d'anges, puis je te massacrerai tout ça, autrement dit. Il n'y aurait pas eu besoin de passer là si elle s'aurait laissé aller à son impatience. C'est parce qu'il y avait de la persévérance à vouloir faire la volonté de Dieu qui a été jusqu'au bout. Puis pourquoi qu'il a eu cette force-là? C'est parce qu'il était rempli du Seigneur, il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, tu vas être capable d'accepter le plan de Dieu, puis tu vas être capable de persévérer dans ce plan-là. Un autre point que ça va nous donner, le fruit de l'esprit, ça va nous donner de la bonté. D'être une personne bonne. Ça, la bonté, là, c'est de la droiture de cœur et de vie. C'est de la qualité. C'est une qualité qui donne une vie de qualité pour les autres aussi. Quand t'es une bonne personne, tu vas aider les autres, puis tu vas, il y a de quoi, il y a un fruit qui sort de ta vie. Mais la bonté, on n'a pas tout ça en nous avant d'être chrétien. Là. Il y en a des gens dans le monde qui sont capables d'être bons, de faire des bonnes actions. Mais, quoi, je parle pour moi, c'était plus dur de faire des bonnes affaires. Parce que j'étais porté vers faire du mal quand j'étais jeune, avant d'être chrétien. Si j'ai changé et qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre dans des choses... qui sont pas naturelles pour moi, c'est parce que c'est Dieu qui m'emmène là, parce que moi, je serais pas une bonne personne. Jésus lui-même, il a dit qu'il était lui-même pas une bonne personne. Puis il a dit, dans Marc 10, 18, il y a quelqu'un qui dit, « Bon maître, Jésus, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. » Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire dans tout cela? C'est qu'humainement parlant, dans sa chair, il avait une chair pareille comme nous autres. Il aurait eu le goût, peut-être, lui tout, de se laisser aller puis de dire des bêtises à tout le monde. Mais s'il était capable d'arriver d'être bon, c'est parce que c'est Dieu qui le remplissait de son esprit puis qu'il avait la force de l'esprit de Dieu pour être capable de faire ses bontés. C'est parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu qu'il péchait pas, puis qu'il était capable de soigner tout le monde, puis d'être attentif au monde, puis de bénir le monde en les exauçant dans leurs besoins. C'est la bonté de Dieu qui s'exprima à travers lui, mais humainement parlant, si Jésus n'aurait pas eu Saint-Esprit, il aurait été pareil comme nous autres. Mais c'est un exemple pour nous, de dire que si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour vivre le fruit de bonté, ben nous autres, ça, on en a besoin. On peut être capable de faire des bonnes actions, mais faut laisser le Seigneur nous conduire puis nous développer pour qu'on devienne de bonnes personnes. Mais après ça, on va dire, c'est pas grâce à moi que je suis bon, c'est grâce à Dieu que je suis bon. Parce que c'est lui qui m'a amené comme cela. C'est de même. On continue. La bénignité, dans cette phrase-là, il y a plusieurs points. La bénignité, ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Ça, c'est un synonyme de bonté, mais ça a le rapport bénin. Bénignité, ça vient du mot bénin, quand c'est pas malin. C'est bénin. C'est au niveau d'une qualité morale, c'est de l'intégrité, bénignité, c'est de la bonté, c'est un synonyme avec bonté. C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce. Quand tu es bienveillant, tu penses aux autres, tu veux bénir les autres, puis tu es douce avec les autres. T'es pas quelqu'un de rough, t'es pas quelqu'un de qui graffigne les autres en passant. Parce que c'est bénin, ça veut dire que ça fait aucun mal. Quand c'est malin, c'est parce que c'est méchant. C'est le contraire. Ça veut dire que tu veux avoir en toi le fruit d'être bénin, d'être de la bénignité, mais tu vas être une personne qui apporte une chaleur partout où tu passes. Tu vas apporter une bénédiction partout où tu passes. Parce que ce qui sort de toi... Il n'y a pas de rien de grave, ni de méchant. Ce n'est que de la bienveillance, de la bonté. Mais pour être arrivé à ce niveau-là, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit encore. C'est encore un fruit que l'Esprit veut mettre en chacun de nous. L'autre point qu'il veut mettre en nous, c'est de la fidélité. Le mot fidélité, que là, c'est le même mot que le mot foi. Il aurait pu écrire le mot foi, ça aurait été la même affaire. On va comprendre dans les explications que quand tu dis que quelqu'un a la foi ou quelqu'un il est fidèle, c'est la même affaire. Quand tu es fidèle envers Dieu, tu as la foi envers Dieu. Tu crois en Dieu. C'est le même mot dans le grec. La foi commence l'idée par une conviction, être des gens convaincus, qu'on croit, qu'on a la foi en Dieu, on a la conviction qui est là. On le sait que Jésus est venu v'là 2000 ans, qui est mort sur la croix, qui a pardonné nos péchés, qui est ressuscité, qui est monté à la droite de Dieu, qui va revenir. On croit que sa parole est vraie. Cette conviction-là, c'est le mot qui est là, qui veut dire la fidélité ou de la foi. Puis ce mot-là, il veut ce que ça veut produire en nous, c'est qu'on soit des gens convaincus de ce que nous sommes. Puis ça, c'est encore un fruit de l'esprit. Il est mentionné, ce mot-là, aussi dans les dons spirituels, la foi. Mais c'est le même mot. Paul l'a expliqué que ça fait partie des fruits de l'esprit, puis ça fait partie aussi des dons spirituels, d'avoir une foi. La foi pour transporter montagne, c'est une ferme conviction. Mais il y a aussi beaucoup d'autres points que ça veut dire, comme la ferveur, la conviction que Dieu existe, ça je l'ai expliqué, conviction ou croyance forte. Croyance religieuse des chrétiens, croyance avec l'idée primordiale, confiance, assurance. Tu crois que Dieu est avec toi, tu crois qu'il a confiance en lui. C'est tout dans le même sens que tu crois en Dieu, mais t'es une personne fidèle. C'est ça qui est le sens. Puis pour cela, ça fait partie du fruit de l'esprit. Faut que tu marches par l'esprit pour arriver à ce niveau-là de force spirituelle, de conviction en Dieu. Un autre point, quand on continue, on est encore dans Galates, là. Galates le 5, là on est sur le verset 23. Une autre chose que Dieu veut mettre en nous par son fruit de l'esprit, c'est de la douceur. La douceur, c'est de la gentillesse, de la douceur, de la soumission, de la docilité. Être des personnes douces, c'est aussi des personnes qui écoutent. C'est pas des rebelles, c'est le contraire d'être rebelle puis d'être contredisant. La douceur, c'est quelqu'un ça coule. Quand il parle, ça coule. Les gens, ils sont contents de l'entendre. C'est pas quelqu'un qui frappe tout le temps quand il parle. Il est pas doux. Quand il frappe les autres, bing, 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 puis le monde sent tout meurtri quand tu as passé, parce que tu as dit un paquet d'affaires qui a fait mal à tout le monde. C'est le contraire de la douceur. Dans Philippiens 4:5, ça nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire qu'un chrétien commence dans sa manière de vivre, s'il marche rempli de l'esprit, tu vas vivre toujours dans une douceur. Puis tout le monde va être conscient que tu es une personne douce. On devrait en arriver à cela. Si le meilleur test, c'est sûr que ça se passe dans le foyer, quand tu es entre l'homme et la femme, là. C'est là que les plus gros tests pour voir si on est dans la douceur, si on le vit, c'est dans la famille qu'on le voit. Puis il faut l'avouer que humainement parlant, on l'a pas. On est toujours en train de se pogner avec quelqu'un. Mais Dieu veut mettre en nous sa douceur. Il veut nous amener à ce qu'on soit des personnes douces. Fait que Seigneur, il y a encore de l'ouvrage à faire avec moi. On a tous, même chacun de nous, là, c'est la même affaire. On n'est pas rendu parfait. Je pense pas que je sois le seul comme ça qui a besoin de douceur. Pour qu'on arrive au point que tous les hommes puissent reconnaître que nous sommes une personne douce, ça, c'est quelque chose. Parce que souvent, entre chrétiens, c'est facile, mais avec les autres dans le monde, est-ce qu'ils nous voient comme une personne douce? Un autre point qui veut mettre en nous, c'est le dernier des points qu'on regarde, il dit la tempérance. Le Saint-Esprit veut mettre en nous de la tempérance. La tempérance, c'est de la maîtrise de soi. Être capable de se contrôler. C'est pas naturel, parce que avant qu'on soit chrétien, on se contrôlait pas ben. On se laissait aller dans tout ce qui passait devant nous. Péché, pas péché, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on s'en retient pas, puis on le dit direct, puis on frappe tout le monde. Mais ça, la maîtrise de soi, c'est dans tout ton être, dans ton caractère, dans ta manière d'agir. Mais faut arriver à avoir de la maîtrise de soi, puis ça, c'est le Saint-Esprit qui va produire ça comme fruit dans notre vie. Puis dans l'explication du dictionnaire biblique, ils disent « La vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, spécialement les appétits des sens. » Fait que ça soit au niveau prendre l'alcool, prendre la bière, prendre manger, ou les choses sexuelles, la maîtrise de soi, d'être capable de maîtriser nos élans naturels. Tout le monde dans leur corps ont un appétit sexuel. Tout le monde. À part que si on serait né eunuque, là, ça arrive qu'il y a des gens qui n'ont aucun feeling, aucun désir. Tout le monde en a. Mais Dieu veut qu'on se maîtrise. Puis les choses sexuelles, c'est dans le couple. C'est pas dans le couple marié devant Dieu. C'est pas avec les... Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui qui sont des laissés-aller sur tout. La sexualité, elle se vit homme, femme, les deux, les animaux, tout est là aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Mais Dieu veut qu'on se maîtrise, qu'on arrive à maîtriser nos pensées, nos paroles, nos agissements. Ça, c'est encore un fruit que l'Esprit veut nous amener, afin qu'on ne pêche plus devant Dieu. C'est ça qui est le point. Parce que quand on se maîtrise pas, ça veut dire qu'on a une ouverture à tout, puis on fait des péchés, puis on attriste le Saint-Esprit, puis on est en train de se déconnecter de Dieu. Des fois, on peut penser que oh, c'est pas grave, même si je regarde la porno sur Internet. Oui, c'est grave. Il y a plein de sujets qui sont graves. Même si j'ai ma conscience, elle pense c'est plus grave, mais Dieu dans sa parole lui dit c'est de l'impudicité. Puis ça c'est un péché, puis aucun impudique va rentrer dans le royaume. Fait que là on a le choix, comme je disais au début, on a deux chemins devant nous. Le chemin de notre chair qui nous amenait dans des péchés, puis le chemin de l'Esprit qui veut nous amener dans une vie parfaite comme Jésus. Puis là, Paul, il continue dans Galates 5, 23, puis il va nous dire que lorsqu'on marche par le Saint-Esprit, on transgresse pas la loi de Moïse. Parce que le débat, il est commencé par rapport que les Juifs, ils disaient qu'il fallait que les gens se fassent circoncis pour tourner à la loi de Moïse. Mais quand tu marches par le Saint-Esprit, tu l'accomplis, la loi de Moïse, tu pêches plus. C'est ça qui est le but. Fait que quand tu marches en Jésus, t'es pardonné, mais t'es bien plus que pardonné, t'es conduit dans une vie de sainteté. Tu pêcheras plus contre la loi. Dans Galates 5, 23, ça dit « La loi n'est pas contre ces choses de marcher par l'Esprit. » Puis lorsqu'une personne est repentante puis qu'il veut changer de vie, mais ça c'est une décision là par la foi, qui nous conduit dans le changement par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu demandes pardon à Dieu pour dire que tu veux être pardonné, tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon, je veux changer de vie. Mais ça, c'est un choix, là. C'est un choix de vouloir qu'à partir de ce moment-là, tu dis à Dieu, laisse ton Saint-Esprit, viens faire l'œuvre en moi pour me changer, pour enlever tout ce qui est pas bon, puis de mettre en moi tous ces fruits-là. C'est ça qui est le but. Il veut nous amener à marcher par l'Esprit, ça veut dire de marcher dans que le fruit de l'Esprit peut s'installer dans notre vie. Il faut marcher dans ce sens-là. Parce que si je dis, je demande pardon au Seigneur pour mes péchés, puis j'accepte Jésus, là, puis deux minutes après, je continue à vivre dans ma chair, puis je veux vivre que dans ma chair, puis je veux pas m'en sortir, donc je suis pas repentant. Une personne qui est pas repentante sera pas sauvée. Si t'es repentant, tu veux changer de vie. Tu l'haïs ta vie de péché. Puis chaque fois que tu fais un péché, tu sais que c'est mal, puis t'haïs ça, puis tu veux que ça sorte de ta vie. Tu veux vivre dans sainteté, tu veux être comme Jésus. C'est ça qui se passe quand que le Saint-Esprit t'amène plus loin à être comme Jésus. C'est ça qui est le but. Dans Galates 5, 24, Paul continue en disant, « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça veut dire toutes les œuvres de la chair, là, c'est crucifié avec Jésus. Tu veux plus de ça dans ta vie. Tu dis, Seigneur, moi, tout ce qui est mal en moi, je veux que ça sorte de moi. Je cloue ça à la croix. Je veux plus vivre là-dedans. Puis là, je veux vivre comme Jésus, dans le fruit de l'Esprit. C'est ça qu'il faut embarquer. puis il faut continuer à se maintenir là-dedans jusqu'à la fin, puis c'est là qu'on marche par l'esprit. Paul le bendit aux Galates, on le voit la semaine, là, à l'autre étude, il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Il parle à des chrétiens, là. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Fait que le secret, c'est de marcher par l'esprit pour faire mourir tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, puis de mettre en nous les fruits de l'esprit. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Paul y encourage les chrétiens de Galate à reconnaître que si nous vivons par l'esprit, ben marchons par l'esprit. On le sait qu'on est sauvé si on marche par l'esprit. Mais marchons par l'esprit. Dans Galates 5, 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est ça qu'il dit dans Galates 5, 25. Je finis avec un dernier verset. La marche par l'esprit est opposée d'un esprit de compétition puis de division avec les autres. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, on vit dans l'amour. Mais quand on va être avec des chrétiens, tu cherches pas à vivre en compétition puis à vivre en division avec les autres. T'es chrétien. Ce que tu veux, c'est l'unité, l'amour. Tu veux marcher avec les autres. C'est pour ça qu'il le dit un dernier verset dans cette idée-là, dans Galates 5, 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Voyez-vous, c'est pour ça que là, comme je vous disais, on a à apprendre à marcher par le Saint-Esprit. La vie de l'esprit, c'est pas automatique. Il faut demander au Seigneur, faire mourir les actions de notre corps. Il dit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen.